Boomerang avec Jalil Lespère, c'est parti. On parle et pendant ce temps-là, en Algérie, on se prépare à marcher, puisqu'on est vendredi. Pour la 31e fois cette année, depuis bientôt 7 mois, on marche pacifiquement pour dire « ça suffit ». Pendant ce temps-là, en Algérie, le pouvoir, le système, les mêmes qui gouvernent et dont on ne peut plus souffrir, la corruption, l'incompétence, la violence. Pendant ce temps-là, en Algérie, on se prépare à marcher, femmes, hommes, enfants, pour la démocratie. On sait que ça va être musclé aujourd'hui. Il y a eu des victoires, des démissions, mais il y a toujours de quoi manifester parce que personne n'a encore vraiment dégagé. On arrête de plus en plus des figures emblématiques du mouvement. On emprisonne, on censure, la presse, mais aussi les films, comme Papicha de Mounia Medour qui a fait un triomphe à Cannes, mais dont l'avant-première et maintenant la sortie est momentanément annulée. Et puis on a appris que le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, a décidé que les manifestants des autres régions n'auraient plus le droit de se joindre au cortège de la capitale. Pendant ce temps-là, en Algérie, ça faisait presque 20 ans que les manifestations étaient officiellement interdites à Alger. Et puis tout a changé le 22 février dernier. On marche désormais dans la paix, dans la fraternité, qu'il pleuve, qu'il vente. On marche sans s'essouffler pour la 31e fois, le vendredi notamment, vers la démocratie.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Vers quoi marche mon invité d'aujourd'hui? Comédien chez Laurent Cantet, Xavier Beauvois, Robert Guédiguian, encore Alain René. Il est aussi réalisateur après son adaptation du roman d'Olivia Dans les vents contraires, vous vous souvenez? Ou encore son retentissant Yves Saint-Laurent. Son cinquième film, Le Dindon, sort mercredi prochain. Hommage au théâtre de Georges Feydeau, autant qu'aux grandes comédies populaires des années 60. Bonjour Jalil Lespère.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, parce que je sais que vous n'y êtes pas indifférent pour plein de raisons, qu'est-ce que vous faites-vous le vendredi? Vous marchez?
Non, mais souvent, je me tiens informé. Moi, je suis franco-algérien, j'ai la double nationalité. Et voilà, j'ai toute la moitié de ma famille qui sont très concernées et l'autre qui l'est tout autant, ou presque, parce que la France et l'Algérie sont pour très longtemps et depuis très longtemps liées.
Qu'est-ce que vous craignez qu'il se produise en Algérie? Les élections ont été fixées au 12 décembre.
Je reste... Je garde beaucoup d'espoir parce que le peuple algérien fait preuve d'un courage, d'un sursaut inespéré en plus, parce que ça fait très longtemps qu'on se dit que bon, les choses sont ainsi et on est un peu fataliste en Algérie, et finalement ça surprend tout le monde et par sa force, son enracinement et puis par sa dignité. Donc je souhaite évidemment, comme je pense la quasi-totalité des Algériens, que les choses s'arrangent. Ça va prendre du temps, c'est long, c'est inextricable par moment, du moins on a cette impression, mais je garde espoir. Voilà.
Vous en parlez rarement de votre double nationalité franco-algérienne, Jalil Lespère. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec ce pays? Quel pays est-ce que c'est pour vous, l'Algérie?
C'est le pays de mon enfance, sachant que j'y allais tous les ans, que j'ai toute ma famille... quasiment là-bas, parce que j'ai très peu de membres de ma famille français. En fait, c'est une toute petite famille, et là-bas j'avais une famille très nombreuse, beaucoup de cousins, de cousines, et je m'en suis un peu détaché pendant les années 90, tout simplement parce qu'il y avait cette guerre civile qui se nomme pas guerre civile, mais qui a été terrible, dont est sortie l'Algérie, mais du coup on y allait moins, c'était compliqué, mais ça reste déjà ma nationalité, ma deuxième nationalité, c'est des odeurs, c'est des souvenirs d'enfance, c'est ma famille, c'est mon sang, quoi.
C'est une mémoire aussi. De quelle mémoire, de quelles histoires est-ce que vous sentez le porteur?
Moi, je suis vraiment le fruit de ce télescopage France-Algérie, sachant que, en gros, pour la faire très court, au lendemain de la guerre d'Algérie, mon père communiste et son frère rêvent de lendemain glorieux en Algérie, parce qu'ils étaient pour l'indépendance, et ils s'installent en Algérie. Vraiment, c'est une sorte de folie, d'utopie, et ils rencontrent ma mère, qui est fille plutôt d'une famille intellectuelle, bourgeoise, algéroise, FLN à mort, et se passe un truc encore plus inattendu, c'est-à-dire un coup de foudre entre une Algérienne et un Français au lendemain de la guerre d'Algérie. Et en gros, il se sauve, il se cache en France et il se marie en cachette, parce que évidemment c'est extrêmement tabou à l'époque. Et c'est une magnifique histoire d'amour dont je suis le fruit.
Vous la raconterez un jour, cette histoire d'amour? Parce que vous n'en parlez pas, hein, de ça, dans vos films.
On me dit souvent que ça ferait un beau film, mais bon, c'est tellement proche que je ne suis pas certain d'avoir assez de recul.
Pourquoi il faut du recul? Il faut être loin d'un sujet qu'on porte en tant que cinéaste, Djalil Lespère?
En tout cas, moi, j'ai tendance peut-être par pudeur, à pas forcément chercher à me raconter trop à travers les films.
Pour autant, cette double culture, je suis sûr qu'elle a influé le regard que vous portez sur la France, notamment.
Oui, bien sûr, sur la France. Et puis, elle m'a nourri parce que une double culture, c'est à la fois un fardeau quand on est jeune, parce qu'on ne sait pas trop où se placer. Et en même temps, c'est une richesse infinie dans laquelle je puise énormément, certainement, et surtout de manière inconsciente.
Même quand vous regardez notre patrimoine national, comme c'est le cas dans Le Dindon, je le disais, vous faites revivre au cinéma l'œuvre de Georges Feydeau, grand auteur de théâtre, maître incontesté du vaudeville. Quel sens est-ce que ça a pour vous de le faire sur grand écran et pas sur les planches d'un théâtre, tiens?
Ça fait très longtemps que je veux adapter Feydeau. Probablement parce que, un peu à l'instar de mon projet sur Yves Saint-Laurent ou de la série Versailles, c'est que j'ai conscience justement, peut-être parce que j'ai un tout petit peu de recul, d'être français et d'avoir cette chance d'avoir un patrimoine culturel, historique, incroyable dans lequel j'adore puiser et que j'aime, pas remettre au goût du jour, mais remettre à mon goût et puis éventuellement le partager avec le plus grand nombre. Moi, j'adore le cinéma depuis toujours, et depuis toujours, je l'ai découvert. J'ai d'abord découvert un cinéma populaire, un art populaire, un art forain d'ailleurs. Le cinéma, c'est un art forain au départ. Donc, j'adore l'idée de restituer certains éléments qui me parlent, moi, de ma culture, et de le partager éventuellement avec beaucoup de spectateurs.
Et qu'est-ce qui fait pour vous de Feydeau un grand auteur de théâtre? Justement.
Je crois qu'il y a deux éléments. Il y a le premier qui est une espèce de c'est un mathématicien réellement du rire et de la comédie, et c'est une espèce de mécanique implacable et sidérante. Et surtout, j'adore son irrévérence. C'est quelqu'un qui écrit sur les gens, qui chope des choses qui sont complètement justes et beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît. Et c'est ça qui nous fait rire.
Votre film est-il irrévérencieux pour autant, Djalil Lespère?
Je pense que le propos est, évidemment, il s'agit de comédie et essentiellement de faire rire, mais je pense qu'en tout cas la manière dont il croque ces personnages et les rapports humains et amoureux sont intemporels, parce qu'ils sont extrêmement justes et justement parce qu'ils sont assez irrévérencieux.
Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites sur le populaire quand même, parce que c'est vrai que Feydeau est un auteur, il a toujours été très populaire, et votre adaptation est pétrie de références à un cinéma qui lui aussi est populaire. À quel cinéma précisément est-ce que vous rendez hommage à travers ce film?
Pour moi, Feydeau, c'est un peu le père de toutes ces comédies des années 60, qui sont souvent d'ailleurs issues de pièces de théâtre. Alors, en France, on va penser à Oscar éventuellement, mais il y en a beaucoup, et beaucoup de films, moi, avec lesquels j'ai grandi à la télévision, qui sont des comédies en effet extrêmement populaires, avec des De Funès, des Bourvil, toutes ces comédies en gros des années 60 françaises. Les films de Gérard Houry plus tard, mais ça va même jusqu'à Dîner de con. Voilà, pour moi, tout ça sont un peu les héritiers, les petits-enfants de Feydeau.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en fin de compte, Djalil Lespère, faire un cinéma populaire?
Moi, j'ai toujours aimé le cinéma, je dirais, qui a la lisière, c'est-à-dire qui peut parler au plus grand nombre, en même temps qui est assez exigeant. Donc, essayer de trouver ce juste équilibre, c'est une chose qui me parle, pas parce que je le conscientise, mais simplement parce que j'ai grandi avec ce type de cinéma-là. C'est celui qui m'a nourri depuis l'enfance et l'adolescence, parce que j'ai grandi avec. Un petit peu, on parlait de l'Algérie, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, ça me ramène à mes souvenirs, à mes odeurs, et j'en suis pétri. Donc je tends indéniablement vers ça, de manière irrépressible, quoi. Voilà.
C'est qu'il y en a une qui n'est pas du tout populaire dans cette émission. Je pense que vous la connaissez. Elle s'est prise pour Miss Univers, c'est la culture, et son actualité fanfaronne, vantarde et vaniteuse. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 20 septembre?
My client would like to see the president of your company, Mr. John Davis.
Dis-moi, Charlotte, t'es sûr que tu parles anglais?
Ah oui, parfaitement.
Fin de l'aventure, Charles Gérard, second rôle fétiche de Claude Lelouch, s'est éteint hier à Paris. Il avait 96 ans, sourcils fournis, nez de travers. Il était l'un des incontournables du cinéma français des 50 dernières années, donnant souvent la réplique à son compère de toujours, Jean-Paul Belmondo, comme dans Flic et Voyou. Charles Gérard avait commencé comme réalisateur avant de passer devant la caméra pour une soixantaine de films. Dirigé par Verneuil, Weber et même Brel, c'est avec Lelouch qu'il tourne ses plus grands succès, comme L'aventure c'est l'aventure, Mariage ou Les uns et les autres.
Moi, je construis des marionnettes.
Coup de fil, c'est aujourd'hui que commence à Charleville-Mézières la 20e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes en partenariat avec France Inter. Jusqu'au 29 septembre, on y attend 130 compagnies, 150 spectacles et de nombreux événements off. On y voit notamment Place des Anges, spectacle d'ouverture tout en grâce acrobatique réalisé par la compagnie Gratte-Ciel, mais aussi Cactus créé pour les plus jeunes ou encore Jerk, solo de marionnettes créé par Gisèle Vienne et inspiré d'une série de meurtres sordides au Texas dans les années 70. On y file, vous l'avez ?
Reviens à
Parasite met en scène une famille de chômeurs coréens confrontés à l'arrogance des nantis.
Merci.
Redoutable Parasite, le film du cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho est devenu la palme d'or la plus vue au cinéma en France depuis 15 ans. Satire sociale aussi délirante que jouissive, le long métrage a réuni près de 1,647 millions de spectateurs depuis sa sortie en salle en juin. C'est le meilleur score pour une palme depuis le documentaire Fahrenheit 9/11 de Michael Moore qui avait rassemblé plus de 2 millions de spectateurs dans l'Hexagone en 2004. Bolabo, Bong Joon-ho.
This is my first song in English. Oula, oula, je sais que je triche.
Et enfin, ouf, on est vendredi, alors on sourit, on bouge son body, car aujourd'hui, dans les bacs, on lève les bras avec Rachita et Je suis africain, son bel album posthume enregistré quelques semaines seulement avant sa disparition. On se projette en l'an 40 avec la formidable Jeanne Chéral qui sera bientôt notre invitée. Et sinon, on s'enjaille avec Why Me, Why Not, la deuxième livraison solo du bad boy des Britpop, Liam Gallagher, notre invité hier, à la bonne heure. Et le cinéaste Jalil Lesper, invité de Boomerang ce matin, on le disait, pour le dindon, d'après Georges Feydeau. Et quand on se penche un petit peu sur votre filmographie, Jalil, ce qui frappe, c'est quand même la facilité avec laquelle vous passez d'un genre à un autre tout le temps, c'est même quasiment obsessionnel, le film choral avec 24 mesures, le biopic aux accents mélodramatiques dans Yves Saint-Laurent, le thriller avec Iris, le film historique avec la série Versailles, la comédie aujourd'hui, vos choix, par quoi est-ce qu'ils sont guidés ?
L'impulse, l'instinct, l'envie.
L'exercice aussi, je me suis demandé.
L'exercice, le défi peut-être, le challenge, oui, certainement. Mais aussi, ça, je pense que ça vient essentiellement du fait que j'ai commencé, et je continue d'ailleurs à travailler comme acteur, et donc de traverser des univers différents, avec des réalisateurs différents, et ça ouvre un peu plus, je dirais, mais aussi, et très certainement, parce qu'avant tout, je suis spectateur de plein de types de cinéma.
Et ça m'intéresse que vous disiez ça, en tant qu'acteur et en tant que cinéaste, cet éclectisme aussi dont témoignent vos films. En quoi est-ce qu'il fait aussi la richesse du cinéma français, dont certains se plaignent à dire qu'il n'a plus vraiment d'intérêt aujourd'hui, le cinéma français ?
C'est difficile à répondre à ça parce que le cinéma, c'est déjà une industrie, donc avec énormément de tous les travers d'une industrie, donc forcément il y a énormément de contenus différents, de films différents. La richesse du cinéma français aujourd'hui, elle reste quand même assez unique. Mondialement
et par le nombre de films qui sont
par
produits.
Le nombre de films, donc il y a énormément de films, pour certains beaucoup trop même
pour
mais ce qui me semble essentiel, c'est que cette industrie réussit malgré tout justement à être très éclectique, et ça c'est pas le cas de beaucoup de cinéma dans le monde, et on est finalement très chanceux.
Ça vous arrive de vous dire quand même que c'était mieux avant, pour ce qui est par exemple de la question des financements, Jalil Lesper?
Alors, quand j'ai commencé comme jeune acteur, il y a quelques années maintenant, un peu plus de 20 ans, à vrai dire, j'entendais déjà ce discours-là. Donc, les modes de financement évoluent en fonction de la manière dont sont consommés, vus les films aujourd'hui, et ils le sont à travers le cinéma, mais pas que, les plateformes, enfin... Tout change, les formats changent et c'est à la fois vertigineux, mais c'est aussi très excitant parce que aujourd'hui on peut faire autant un film de cinéma qu'une série pour une scène, une télévision ou une plateforme ou tout un type. En tout cas, on peut raconter des histoires de manière différente et dans ce puits sans fond presque aujourd'hui, tout n'est pas encore très clair, mais les choses commencent à se définir.
C'est quand même un parcours du combattant, non ?
Oui, évidemment, c'est pas évident, mais en même temps, c'est un peu normal. C'est-à-dire que faire un film, c'est engager, je sais pas, à peu près 200 à 300 personnes. Enfin, c'est à chaque fois monter une petite entreprise. Donc, oui, ça prend du temps. En tout cas, par exemple, pour un jeune cinéaste de pouvoir faire son premier film, c'est aussi un milieu. Extrêmement concurrentiel, mais c'est aussi malgré tout un aujourd'hui, en tout cas en France, on produit à peu près 200 films par an, c'est pas rien. On produit un nombre de séries, de téléfilms, énormément de choses finalement. Donc il y a en tout cas il y a de quoi faire. Évidemment, il faut se battre un peu comme partout hein, pour faire ces films.
Et quand est-ce que vous avez ressenti le besoin de passer derrière la caméra, vous qui aviez une carrière en tant que comédien et qui fonctionnait ?
Bah, écoutez, très tôt en fait, parce que j'ai commencé à être comédien en 95 et puis en 2000 j'ai fait un premier court-métrage et
c'est parce qu'il vous manquait quelque chose.
Oui, je me prédestinais pas du tout à la carrière d'acteur et pour tout vous dire, même je commençais à faire du droit, etc. Et puis j'ai eu la chance et le privilège de faire un court métrage comme acteur, d'être repéré très tôt l'année du bac, en gros, et puis de mener un peu les deux en parallèle. Mais je me voyais pas. Faire du théâtre, par exemple, être nourri par des grands textes. Et du coup, entre deux films, je m'ennuyais un peu. Et puis, surtout, j'avais envie de filmer mes potes, de raconter mes histoires. Pourquoi, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai pris une caméra un jour, puis j'ai fait un court-métrage et j'ai pris vachement de plaisir à être derrière la caméra.
Et vous avez tourné avec de très grands metteurs en scène aussi, qui sont autant, je pense, de professeurs. Qu'est-ce que vous avez appris du métier de réalisateur en les regardant travailler ? Lesquels vous ont le plus marqué ?
Vous avez cité quelques noms, évidemment Laurent Cantet avec qui j'ai commencé, Alain René qui était juste hallucinant de d'inventivité.
D'en pas sur la bouche, oui.
Robert Guédiguian qui a une démarche.
L'inconnu du Champ de Mars.
Aussi magnifique. Et Xavier Beauvois qui a un instinct et une intelligence redoutable. Voilà, tous ces gens talentueux. Ce que ça m'a appris, c'est qu'en fait, il n'y avait pas une façon de faire, mais des façons de faire. Ouais. Mais il y avait quelque chose de commun, du moins chez tous ces grands-là, c'est que il y a une sorte de candeur, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance pour le comédien, mais aussi pour le réalisateur. C'est-à-dire, on joue la comédie, on raconte une histoire et on y croit.
Vous l'avez encore, ça, vous ?
Ouais, il faut garder cette candeur à fond, quoi, sur un plateau. Il faut qu'on y croit tous. Et en ce moment, justement, je suis comédien et à un moment, j'attendais, on préparait un plan et je nous voyais, on tourne en pleine montagne, enfin c'est dans des conditions un peu rudes, etc. Et je voyais tout le monde s'affairer à tous les postes, que ce soit les techniciens autour de nous, et c'est beau quoi. C'est vraiment beau parce que on y croit tous, on a tous envie de faire le meilleur film possible, et cet investissement, cette candeur, je la trouve, elle me touche encore énormément.
C'est la candeur et de la joie, Jalil. Si ça tombe bien, parce que figurez-vous qu'ici aussi, on en a de la joie, surtout le vendredi. On se fait un petit plaisir tous les deux, on écoute Charles Trenet. En 1936, il y a de la joie, vous êtes sur France Inter avec Jalil Lespère. Vous savez quoi ? Vous avez le droit de sourire.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle. C'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Et je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour, bonjour les demoiselles. Il y a de la joie, partout, il y a de la joie.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ah ouais, il a quelque chose du joyeux drill, vous savez, quand même, celui qui a toujours le mot pour rire. Hein. Jamais méchant, moqueur. Il était un petit peu taquin, même. On est quelque part entre une version bavarde de Lucky Luke et le berger des montagnes. Celui qui vous tend une main providentielle. Lorsqu'à la tombée de la nuit, vous vous retrouvez paumé sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Soirée au coin du feu à faire fondre du fromage de brebis en récitant des poèmes en latin, en se faisant des petits câlins avec son sweatshirt à capuche. Ce matin, le réalisateur Jalil Lesper, invité de Boomerang pour Le Dindon, qui sort mercredi. Vous qui avez également réalisé pour la télévision, Jalil, quel lieu est-ce que c'est, la salle de cinéma ?
Bah, c'est un lieu de partage, donc forcément c'est assez magique et on le découvre très rarement, malheureusement, quand on est réalisateur. Notre premier public, et je dirais presque notre seul public, c'est dans un premier temps les techniciens. Donc c'est à vrai dire, c'est moi et mes techniciens. Parce que on est tous évidemment concentrés sur ce que font les acteurs et quand c'est bien, on est heureux.
Mais vous l'accompagnez après le film.
Et après on l'accompagne, voilà, on l'accompagne, et des fois on se glisse dans la salle. Il y a des réalisateurs très courageux qui arrivent à lancer leur film, à vérifier, à rester entièrement. Moi, c'est pas du tout mon cas, c'est-à-dire que j'ai tendance à me sauver, me cacher. Je fais confiance au film. Je suis un peu fataliste, peut-être c'est mon côté algérien, mais je laisse faire les choses. Et en revanche, j'aime bien aller le voir quand ça se passe bien, et du moins aller le voir en salle, me glisser au milieu du vrai public.
Voilà. La première fois que vous êtes glissé dans une salle de cinéma, vous vous souvenez quand c'était ?
Alors j'ai grandi à Noisy-le-Grand en partie, et j'ai grandi juste en face du centre commercial. Il y avait un cinéma de quartier, et mes voisins c'était une famille nombreuse, la famille Israël, et avec les frères Israël. Les grands frères, on avait inventé le pass illimité, c'est-à-dire qu'on allait à l'époque, c'était facile de rentrer dans un cinéma, donc on allait voir un James Bond et puis on passait après voir le film de Belmondo, le E.T., enfin voilà, on faisait 2-3 séances en groupe.
C'est vrai. Vous en gardez quels souvenirs? Des souvenirs irrévérencieux, justement.
En tout cas,
du coup, la salle de cinéma a quelque chose à voir avec l'interdit.
Non, mais vous savez, vous parliez tout à l'heure de la série Versailles. Qui avait fait la télévision. Quand j'ai fait la série Versailles, on tourne en gros essentiellement dans les studios de Brie, donc à quelques encablures de Noisy-le-Grand où j'ai grandi. Et j'avais tellement peur, parce que c'était un immense projet. La veille du premier jour de tournage, j'ai été voir là où j'ai grandi. Et je me suis aperçu de deux choses. La première, c'est évidemment qu'il y avait ce cinéma juste à côté. Et je pense que si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai découvert le cinéma très jeune et comme ça. Et ce cinéma populaire. Et puis surtout, j'ai redécouvert l'esthétique de cette ville. C'est, vous savez, ces villes de banlieue, ces villes modernes qui ont poussé dans les années 80. Et je me suis aperçu à quel point ça avait même influencé mon regard, en tout cas mon esthétique.
Et justement, je me demande, quel est le film qui vous a fait dire, Jalil Lesper, c'est ça, le cinéma. Ça, c'est du cinéma.
Le premier choc vraiment de cinéma, ça a été Truffaut, les 400 coups, quand je suis je dois avoir 12-13 ans.
Pour quelle raison ?
Pour l'humain, en fait. J'ai jamais, même enfant, trop été fan de dessins animés. J'aimais les vrais films avec des vrais gens et des vraies émotions.
Pour Jean-Pierre Léo,
pour ce Paris qui vivait alors qu'il n'existait plus tel quel. Je trouvais ça magique. Et puis plus tard, adolescence, ça a été Cassavetes, donc ça a été Cassavetes pour le jeu des acteurs, pour la profondeur du propos, voilà.
Justement, qu'est-ce que vous cherchez à capter en tant que réalisateur et comédien aussi, chez un comédien, chez une comédienne?
Bah, ce que je trouve vraiment intéressant, fascinant chez l'acteur quand il est talentueux et qu'il est porté par un grand rôle, c'est sa capacité à interpréter, donc à faire faire en sorte que le personnage naisse différemment, c'est-à-dire qu'il le transforme.
Différemment de la façon dont il est écrit.
Dont il est écrit, c'est-à-dire vraiment la force d'interprétation, donc liée à la force de caractère de l'acteur qui interprète. Je pense que Brando est Brando, ou Depardieu est Depardieu, parce que ce sont des personnages dans la vie hors norme.
Et parce qu'ils transgressent.
Ils transgressent, ils inventent, ils ont une proposition littéralement vraiment différente.
Vous avez envie qu'on vous contredise, en fait, en tant que cinéaste, si j'ai bien compris.
Non, mais qu'on me propose.
On va continuer à parler de cinéma ensemble. Je vais vous faire entendre quelque chose, vous allez me dire ce que vous voyez. On joue à ça?
Bien sûr.
On y va.
Alors je vois évidemment un film qui est à 4 tonnes, qui est une scène en plus qui est un peu la symbiose de tout ce que j'aime au cinéma, c'est-à-dire à 4 tonnes, donc c'est le premier long métrage de Pasolini, et cette scène-là c'est celle où le personnage principal qui est un petit proxénète qui a tout perdu et qui essaye de retrouver sa femme, son enfant qu'il a évidemment lâchement abandonné, et puis il retourne dans cette belle famille qui n'est plus sa belle famille, et les frères s'en prennent à lui, les frères de sa femme, et il y a une bagarre qui s'ensuit au sol entre deux hommes. Ce sont des plans larges, très simples, très sobres. On entend les cris des enfants, les cris des gens du quartier. Ça se passe dans une sorte de bidonville. Il y a le père qui veut s'en mêler, qui veut prendre un couteau, on le retient. Il y a quasiment pas de dialogue, il y a pas de dialogue. C'est très naturaliste. Et t'as ces deux hommes dans la poussière qui se roulent. C'est presque une scène d'amour en plus, parce que c'est deux corps d'hommes qui s'entremêlent. Il y a quelque chose d'éminemment même sensuel. Et puis c'est porté par Bach.
Ouais.
C'est ce décalage en fait qui est sublime, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de très cru, de brutal même dans sa mise en scène, et de simple, et porté par ces chœurs qui transcendent tout. Voilà, c'est ça pour moi la force du cinéma, et d'un grand film, c'est de porter un regard. Encore une fois, on parle d'interprétation tout à l'heure. Voilà, c'est une interprétation de la vie différente et transcendée.
Et de donner ici une dimension quasi sacrée aux images de Pasolini. Absolument. Et Jalil Lesper, se pourrait-il que le cinéma ait quelque chose à voir avec le sacré pour vous?
Pour moi, oui, absolument. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu y consacrer ma vie. Il y a quelque chose de magique dans le cinéma, quand je parlais de Truffaut, des 400 coups, je pense vraiment la chose qui m'a touché, c'était de me dire qu'il y avait quelque chose qui traversait le temps et qui restait éminemment vivant. Donc il y a quelque chose de sacré, oui, absolument.
C'est pour ça que vous en faites du cinéma, pour la vie, pour rester vivant.
En tout cas, pour probablement laisser des marques, des empreintes. Alors, pas forcément les miennes au sens égocentré, mais probablement des marques, des choses que j'aime, un peu comme un collectionneur qui aime des acteurs, des histoires et qui veut les laisser quelque part. Est disponible.
Vous le ferez votre film sur votre famille.
Peut-être.
Merci infiniment.
Merci
à vous. Je l'espère d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Le Dindon avec Alice Paul, Laure Calamy, Ahmed Silla, Danny Boone, Guillaume Gallienne sort mercredi. C'est une comédie menée tambour battant. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Martinery, Joséphine Dumoulin et Jean-Baptiste Audibert. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers et son Instant M, juste après le tout nouveau titre de qui ? De Philippe Catherine.
J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone avec toi. J'aime être stone.
Avec toi, qui sort ce matin, c'est le nouveau disque de Philippe Catherine, Stone avec toi, c'est un disque évidemment France Inter, comme vous l'avez compris, après avoir écouté l'interview d'Ali Badou avec Alain Finkielkraut ce matin.